Chronique d'un nouveau monde numéro 8, le 25 décembre 2020. La foi, clé de l'ouverture des portes dimensionnelles et changement quantique et symptômes.
Les gens ordinaires ne pourraient jamais imaginer à quel point le chemin semé d'embûches vers la connaissance du service d'autrui reste épuisant. C'est de la folie, mais il est vital, souvent même amusant. Peut-être s'imagine-t-il encore que la lumière doit transpirer du corps lorsqu'ils méditent, ou qu'ils arriveraient mieux à ascensionner par des chants, des danses, récitant des mantras ou en brûlant des bougies. Rien de tout cela n'est vrai. L'école de la quatrième voie n'est absolument pas ça. Elle est rude pour l'ego humain, difficile à encaisser pour le corps, déchirante pour l'âme, car elle se bâtit sur de solides expériences vécues parmi la folie de ce monde de troisième densité. Et sans cesse, martelant douloureusement le cerveau de l'individu afin de le tenir éveillé, cette voie maintient généreusement entrebâillées les portes d'accès à la connaissance. Passage obligé pour amener l'humain à comprendre comment retrouver la foi, cette quatrième voie, la voie du fou, dans laquelle il s'agit de passer incognito dans ce monde de folie, reste déterminante pour que quelques-uns puissent s'initier à créer de nouvelles lignes de temps et qu'en leur empruntant le pas, l'humanité puisse apprendre d'elle-même à se sortir de sa propre folie. Au sein de cette école, nous avons étudié les multiples manières dont nos résistances se conjuguent face aux situations inconfortables d'un changement. Et ayant su déceler que tout changement suppose que l'humain qui se décide à emprunter cette voie apprend à façonner lui-même son nouveau monde, nous avons été témoins de la manière dont l'ancien chaos mondial pouvait s'effacer de la réalité de ces fous qui empruntaient cette voie. C'était de la folie. La voie du fou devenait la foi du fou. Mais nous avons également remarqué qu'aussi longtemps que d'anciennes attaches restaient toujours inscrites dans nos mémoires, nous assistions souvent à toutes les déclinaisons de la manifestation du déni, du tout va bien, du boycott de ces réalités et de ces nombreux sabotages inconscients. Ceci tout bonnement parce que ce déni était corrompu par la peur. Les prises de conscience, toujours difficiles, compliquées, parfois confuses ou fluctuantes, n'ont donc jamais emprunté de chemin tout tracé vers la compréhension immédiate et totale. Progresser sur cette quatrième voie est alors devenu un geste de grand courage, une résolution intime très profonde et un acte de foi de fou, qui demandait à explorer chaque blessure de l'âme pour décider des ressources pour la traverser. L'humain ordinaire, piégé dans sa folie ordinaire, persiste encore à croire que la seule chose qu'il devrait préserver est son existence. Il a donc préféré choisir de craindre pour sa propre sécurité et à arrêter de vivre, de s'embrasser, de se saluer. Et ayant délaissé les vrais échanges humains, il a tout bonnement cru à tout ce qu'on lui a laissé croire. Il parcourait les magazines en croyant tout ce qu'il y lisait. Il écoutait les journaux télévisés en croyant tout ce qui s'y racontait. Et se croyant plus intelligent que d'autres, il a même fait sa propre sélection de fake news sur Internet afin de choisir les mensonges auxquels il pouvait encore croire. Il a ainsi abandonné sa liberté, s'est imposé un masque et a perdu sa foi. Et en perdant la foi, il a perdu sa souveraineté, et en perdant sa souveraineté, il va perdre la vie. L'homme ordinaire ne comprend toujours pas comment la foi accomplit des miracles. Sans cesse, nous l'avons affirmé, s'il le faut, la foi peut soulever des montagnes. Mais ne se souvenant jamais de la manière dont la foi arrive à transformer leur réalité, les gens croyaient qu'ils devaient lutter ou se rebeller pour sauver leur existence. Alors beaucoup se sont rebellés et au final, bien sûr, certains, au lieu de préserver leur existence, y ont laissé leur vie. Avoir la foi implique donc de comprendre que si chacun se donnait les moyens de dépasser chacune de ses craintes, une force se mettrait en branle afin que dans sa réalité, certains événements tournent à son avantage. « Aide-toi et le ciel t'aidera », avait dit Hercule au Chartier embourbé. Voir le lien sur notre site. L'univers étant électromagnétique, aussi longtemps que l'individu restait influencé par le moindre émotionnel de rébellion, une quelconque basse fréquence de peur, de lutte ou de révolte, il persisterait à attirer à lui des circonstances qui le conforteront dans ses soupçons. Alors que l'humain possède la grande chance d'être né humain, il devrait donc être assez intelligent pour comprendre qu'il attire à lui ce qu'il vibre. Et s'il cessait d'homologuer le déni, il surpasserait ses peurs et, de par sa souveraineté, manifesterait lui-même sa nouvelle réalité. Il est là le vrai pouvoir créateur de l'humain. Nous l'avons déjà dit, l'humain ordinaire est doté d'une conscience encore très loin d'être individualisée. Et puisqu'elle ne l'est toujours pas, elle reste en permanence sous l'influence de diverses entités prédatrices. La conscience des individus ordinaires n'est donc guère plus évoluée que celle des animaux. Nous savons que l'humanité de troisième densité, celle qui lutte, se défend, se bat, se rebelle contre ses semblables, est arrivée en fin de cycle. Et malgré ses penseurs, sa science, ses médecins, ses services secrets, ses forces de répression, ses armées, ses généraux, ses armements ultramodernes, sa prétendue intelligence artificielle et technologie de pointe, et toutes ces choses que nous cachent encore les élites, s'en sera bientôt fini de l'homme ordinaire. Et leurs élites ordinaires le savent. Pourtant, tous persistent encore à servir leurs maîtres, des entités psychiques extraterrestres ou intraterrestres, qui organisent leurs pensées et qui ont pour projet de s'approprier la planète. Nous en avons parlé en long et en large dans les dialogues avec l'ange, dans les cahiers, jusque dans les chroniques. A priori, nous n'allons donc plus revenir sur le sujet. Toutefois, notre travail qui devient d'autant plus passionnant nous amène à aller toujours plus loin dans nos compréhensions. Les temps changent, et en même temps que ces temps changent, de plus en plus souvent, les lignes dimensionnelles se chevauchent, se croisent, se divisent et les événements se précipitent. Alors certaines expériences se précisent, devenant parfois assez surprenantes. Les Cassiopéens avaient déjà prévenu que les choses deviendront de plus en plus bizarres. En effet, par période, nous avons pu remarquer que ces phénomènes bizarres, parfois décrits par la mécanique quantique, sont mis en cause par la manière dont nous orientions ou tirions parti de l'énergie de nos pensées. Et occasionnellement, nos pensées pouvant générer des phénomènes si étranges que si nous n'en étions pas avertis, il pourrait nous amener dans d'irrationnelles discordes ou d'inexplicables colères. Heureusement que nous possédons ce savoir et que grâce à nos multiples expériences à leur sujet, nous savons désormais déceler les ouvertures dimensionnelles ou les chevauchements de réalité qui permettent à ces phénomènes d'avoir lieu sans nous chamailler. Alors, de quoi parlons-nous ? Dans un premier temps, afin que le lecteur puisse comprendre de quoi il est question, nous relaterons quelques faits. Ensuite, nous rajouterons ce que l'ange du futur avait communiqué à leur propos. Il y a quelque temps de cela, alors que Genaël transcrivait la chronique de l'ange numéro 6, il rédigeait une phrase d'un paragraphe au futur simple. La relisant ensuite dans le contexte du texte, il se ravisa, puis la réécrivit au futur antérieur. Hésitant longuement entre les deux versions, il décida finalement de la laisser au futur antérieur. Version 1. C'est ainsi que la vérité sur le sujet concernant la structure de votre univers a été classée top secret par le complexe militaro-industriel qui depuis peu s'est élevé au rang de prétendant à vouloir contrôler l'espace interplanétaire. Mal lui en prendra. Version 2. La même phrase se terminant par « Ma lui en aura pris ». Il envoya le texte à Sand qui, par mail, reçut cette version. Version 3, encore la même phrase qui se termine par « Ma lui en aura prendra ». Les personnes non averties se diraient incontestablement qu'il s'agit d'une faute de frappe ou d'inattention, soit. S'il n'y avait pas d'autre exemple, peut-être. Mais dans notre quotidien, d'autres modèles de singularité du même genre prennent forme assez régulièrement. Nous comprenions plus tard que ces modèles relevaient tout bonnement de phénomènes de réalité partagée, dans lesquels, dans une première réalité, nous avions fait l'expérience de quelque chose, mais dans une autre, nous ne l'avions pas fait. Ces phénomènes commençaient à devenir trop évidents pour pouvoir être mis sur le compte du hasard. Autre exemple. Un soir, après avoir nettoyé un robot ménager et en les alignant méticuleusement le long de la planche à découper, Sand laissa trois petits blocs de caoutchouc à sécher sur le plan de travail de la cuisine. Jenaël, passant alors à proximité, les repéra en se disant « Il ne faudrait pas qu'ils disparaissent ». Pour éviter qu'ils ne roulent quelque part, il les rassembla donc encore plus minutieusement. Le lendemain matin, il ne restait plus que deux pièces disposées sur le plan de travail. Néanmoins, elles étaient de nouveau parfaitement alignées le long de la planche à découper. Alors que la veille, Jenaël les avait consciencieusement rassemblées en un petit tas. Et s'imaginant que Sand s'était peut-être levé la nuit pour les réaligner, il relevait cette bizarrerie, lui faisant alors remarquer la disparition de l'un des trois petits morceaux. Nous avions rapidement compris que les singularités de ce genre demeuraient inexplicables pour les esprits cartésiens qui les mettraient sur le compte de l'inattention. Mais l'inattention n'était précisément pas la cause de ces phénomènes, car dans les deux cas, il y aurait plutôt eu excès de vigilance. Les derniers temps, d'autres cas semblables de réalité partagée se produisirent encore. Mais nous n'allons pas tous les raconter, car le plus intéressant est de comprendre comment ce genre de choses peut se produire. D'autres anecdotes de ce type figurent dans le dialogue avec notre ange numéro 35, voir le lien sur notre site. La physique moderne tente de les expliquer dans des théories de mécanique quantique qui avancent par exemple que, par un phénomène de superposition de réalité, une sorte de don d'ubiquité, un individu pourrait être à plusieurs endroits à la fois. Mais n'étant que théorique, les mécaniciens quantiques rejettent généralement cette idée lorsqu'elle concerne l'être humain en chair et en os. Pourtant, à l'échelle humaine, précisément dans la dimension dans laquelle se tiennent ces physiciens lorsqu'ils observent l'expérience, ils peuvent néanmoins constater ce phénomène d'ubiquité à l'échelle atomique lorsqu'il est mis en évidence par l'expérience des deux fentes dans laquelle, effectivement, une particule peut être à plusieurs endroits à la fois. Voir le lien sur notre site. Leur approche, très intéressante, reste pourtant très restreinte, puisqu'encore une fois, cette théorie est développée par des scientifiques pourvus d'une conscience de troisième densité, donc très limitée par leur intelligence. Cette théorie quantique du dédoublement de l'individu serait donc plus vraie qu'ils ne le croient eux-mêmes. Car au moment où l'observateur constate l'expérience, lui-même campé en troisième densité, il reste doté d'une conscience et d'une intelligence limitée de troisième densité, ignorant qu'un certain nombre de doubles ou alters, réalisant des expériences similaires sur d'autres plans de réalité, se font exactement les mêmes réflexions que lui à propos de cette théorie. Vérifiée à propos des électrons au niveau quantique, cette théorie serait donc valable pour tout objet, même pour le corps humain, ce que les physiciens paraissent ignorer, puisqu'ils ne s'occupent pratiquement jamais des plans dits spirituels et qu'ils ne semblent pas les prendre en compte dans leurs observations. Nous avions déjà abordé le sujet dans le dialogue avec notre ange numéro 34, voir le lien sur notre site. Extrait. Pour faire exister ce monde, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse exister et qui observe sa création. Ce qui sous-tend qu'il y a forcément de multiples créateurs-observateurs qui créent et observent leur propre création, et cela au même instant. Ces créateurs-observateurs ne sont que d'autres nous-mêmes sur un autre plan de conscience supérieure, c'est-à-dire au-delà de la troisième densité. Donc, ces créateurs-observateurs existent bien dans une réalité tangible dans la hiérarchie des mondes supérieurs au nôtre. Fin de l'extrait. Revenons alors à notre histoire de petits bouts de caoutchouc. C'est ainsi qu'à notre échelle humaine, dans laquelle les trois petites pièces de caoutchouc séchées sur le plan de travail de notre cuisine, les mécaniciens quantiques auraient pu, en théorie, comprendre comment l'une des trois petites pièces aurait pu disparaître, puisqu'au niveau atomique, cette théorie par laquelle une particule peut se trouver à plusieurs endroits à la fois est déjà vérifiée. Il s'agit donc effectivement d'une histoire de masse, de position et de vitesse. Mais histoire de masse, de position et de vitesse, de qui ou de quoi? De l'objet observé? Évidemment, mais pas seulement. Nous devrions pouvoir comprendre que dans certaines circonstances, certains objets peuvent être effectivement à plusieurs endroits à la fois. Alors, pourquoi les yeux ou le corps de l'observateur ne le pourraient-ils pas? Parce que ces endroits dépendent de la position de l'observateur lorsqu'il observe son monde, de sa vitesse de mouvement et de l'énergie qu'il déploie ou focalise par son observation. Les anciens disaient sûrement avec raison, quand on a la tête ailleurs, on n'est pas là. Alors, la vraie question ne serait-elle pas par laquelle de nos têtes est produite la plus grande quantité d'énergie psychique lors de cette observation ? Autrement dit, quels sont les haltères qui étaient présents lors de l'observation et où, à partir de quel plan de réalité ou de quel monde est produit ou provient l'énergie de l'observation qui transforme les ondes en particules ? Les mécaniciens quantiques n'auraient-ils toujours pas compris qu'ils étaient eux-mêmes soumis à l'ubiquité de la conscience de leur soi, l'omniprésence, omniconscience du soi, dans tous ces mondes, devenant alors eux-mêmes les créateurs observateurs, subsistant dans les réalités tangibles de leur monde supérieur? Et lorsqu'ils observent toutes ces superpositions cohérentes d'états quantiques dans l'infiniment petit, ces physiciens oublient souvent qu'au niveau macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle du cosmos, l'atome représenterait le corps humain, alors que la fonction d'onde pourrait être attribuée à l'onde qui matérialise la frontière de notre monde vis-à-vis de ses nombreux voisins, les dimensions de réalité parallèles. L'âme humaine existe ainsi, dans tous ces mondes ou dimensions parallèles à la fois. Parfois elle y est incarnée, parfois pas. Mais dans tous ces mondes, tantôt matériels, tantôt astralisés, les mémoires de ces expériences restent inscrites dans une sorte d'infinie bibliothèque magnétique de connaissances qui forme alors à tout jamais ce fameux champ morphogénétique. Voir la chronique de l'ange numéro 4, le lien est sur notre site. Ces multitudes de mondes dans lesquels l'âme est présente, même si le soi ne choisit pas de s'y incarner, représenterait la fonction d'onde de l'univers. Mais lorsque le soi décide de s'incarner dans l'un de ces mondes, son intelligence se met à imaginer ses formes contenant. Puis, se chargeant d'énergie, ses formes accumulent de la densité. Ensuite, par les lois de la gravitation, les particules denses s'agglutinent entre elles pour constituer cette forme et la réalité du monde dans lequel le soi esprit s'incarne. Dès lors, le soi devient roi dans son royaume. Au moment de l'incarnation, le soi produit ou crée son corps d'incarnation en passant par toutes les étapes de la génétique et de la biologie humaine. C'est pourquoi, pendant sa progression dans un environnement humain à cycle court, en accumulant de l'énergie et devenant de plus en plus intelligent, l'intelligence du soi gravit les échelons de la conscience vers des niveaux de réalité supérieurs. Les ésotéristes appellent cela l'ascension. Durant un cycle d'incarnation, le soi est enveloppé par l'ego, un champ magnétique qui le préserve et l'empêche de progresser trop rapidement. Ceci pour qu'il puisse faire bénéficier sa conscience des expériences qu'il amasse dans ces mondes de dualité de troisième densité à cycle court. Voir le dialogue numéro 29, dont le lien est sur le site. Ce soi devra ainsi apprendre à se libérer de son ego sans se suicider, tel que le fait l'humain ordinaire en résistant, en luttant, en se révoltant, etc., afin que dans un avenir plus ou moins proche, c'est là qu'intervient la notion de vitesse et de déplacement dans l'espace-temps, il puisse fusionner avec son soi supérieur qui se transformera en soi futur pour, à ce moment-là, commencer sa progression dans des densités de réalité à cycle long, participant alors directement et en toute conscience et connaissance de cause à la planification des mondes. Évidemment, cette analyse de la réalité quantique de l'humain nous avait été inspirée par l'ange, notre soi futur. Rappelons-le encore, il est la partie de notre conscience qui n'est pas incarnée dans les mondes de troisième densité, mais qui de plus en plus fusionne avec notre conscience actuelle. Afin de faire progresser notre propre conscience et intéresser de par notre nature de quêteur de connaissances, nous lui avons donc posé d'autres questions.
Question à l'ange. Si nous avons bien compris, dans le cas du robot ménager de Sand, d'autres nous, présents sur d'autres plans, ont alors eux aussi perdu des morceaux de caoutchouc de leur robot ménager ?
Peut-être ont-ils perdu les trois morceaux, ou n'en ont retrouvé qu'un seul, ou alors découvert une pièce supplémentaire aux trois qui était disposée sur le plan de travail. Les possibilités sont multiples, même infinies. Finalement, ne devriez-vous pas vous adresser à Saint-Antoine ? Sans vouloir vous vexer, à votre palier de conscience, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela, puisque dans certains cas de figure, vous pouvez même être les sujets d'un phénomène de réalité partagée et non pas de deux réalités parallèles, chacun de vous, à ce moment-là, ne disposant que d'un bout de la vérité. Mais il n'existe qu'une seule entité conscience qui pourrait savoir ce qui est véritablement arrivé à la petite pièce en caoutchouc. Cette entité conscience est la somme de tous les altères qui ont vécu la même expérience que vous, sur toutes les différentes lignes de temps nécessaires au déroulement de l'expérience. Et comme vous vous en doutez déjà, cette entité conscience est votre soi futur de sixième densité, qui est la première expression individualisée de l'énergie de l'un de septième densité, à partir de laquelle tout existe. Imaginez que peut-être, quelque part dans votre futur, vous retrouviez cette pièce au fond d'un tiroir, derrière le frigo, ou même dans la voiture. Serait-ce alors un hasard ? Si vous la retrouviez à nouveau, c'est que deux lignes deviennent simplement conjointes, se déroulant en parallèle parfaite, ou alors ne redeviennent qu'une seule. Et ce serait le cas si dans un futur proche, tout rentrait dans l'ordre. Mais au plus le temps s'écoule, au plus l'endroit de sa découverte serait improbable. Peut-être même que vous aurez oublié sa fonction, ou encore que vous l'ayez déjà découvert de par le passé sans en connaître son utilité. Vous vous approchez de plus en plus rapidement de la frontière du royaume dans lequel votre soi présent est roi, au point que vous pouvez déjà ressentir les symptômes de la pénétration des autres densités royaumes. Ces types d'anomalies en sont les signes notoires. Ces points de rencontre entre les différentes dimensions passées ou futures vers votre présent représentent ces fameux portails par lesquels peuvent se produire quantité d'interpénétrations de réalité, mais qui généralement restent imperceptibles par la psyché humaine. Parfois aussi, des passages s'ouvrent de la quatrième vers la troisième densité. Dans ces cas, les interférences s'apparenteraient plutôt à des hernies temporelles, ces dernières pouvant être considérées comme des épanchements de la quatrième densité dans la réalité de votre monde, qui font que vous arrêtez de percevoir l'écoulement du temps. Certains d'entre vous ont peut-être déjà ressenti les effets de cette fusion de réalité, dans lesquelles leur soi roi, dans sa ligne de temps présente, s'unit avec un autre soi, provenant d'autres réalités intemporelles ou immatérielles. Ces autres réalités recèlent généralement des expériences intéressantes qui parfois, par exemple dans les rêves, ne se manifestent que sous forme de potentiel, mais qui, même en tant que tels, sont néanmoins porteurs de leçons. Même s'ils ne vous sont donc généralement accessibles que par des rêves, ces autres plans, qu'ils soient potentiels ou réels, ont accumulé beaucoup d'énergie produite par la conscience qui les a imaginés ou rêvés. Et ce sont ces autres plans, donc de multiples potentiels de réalité, dont les souvenirs conscients et les mémoires inconscientes sont inscrits dans les codes génétiques de l'âme, qui, commençant à fusionner avec votre conscience actuelle ou présente, lui confère une certaine masse. Votre conscience actuelle est donc en train de se télécharger les mémoires provenant de ces autres plans d'existence, réels ou potentiels. Les leçons tirées de ces autres plans représentent une somme de connaissances amenant rapidement à l'expansion, augmentation de la conscience de votre soi actuel dans son présent royaume. Cette expansion du soi, par la connaissance, vous prépare désormais à la progression vers des plans de réalité supérieure. Cette progression est déterminée par une prédisposition du soi qui, telle une résistance électrique, accumule de l'énergie en s'enrichissant de toute la masse de connaissances que l'âme avait amassée durant ses incarnations. Ceci dans le but de s'élever vers la quatrième densité en cette fin de période à cycle court. Ainsi, de la même manière que votre conscience s'enrichit des expériences provenant de ces autres plans d'expérience, votre âme grandit. Et comme votre corps actuel reste toujours le prolongement de l'âme dans votre actuel présent, Lui aussi s'enrichit de ses mémoires physiques, souvent traumatiques, qui l'ont usé, fait souffrir, puis même tué durant ses cycles d'incarnation sur d'autres plans de réalité. C'est pour cette raison que votre système biologique et hormonal ressent et exude l'accumulation de ces mémoires par des grandes périodes de fatigue, puis parfois par de subites poussées de fièvre. Ces périodes de fatigue débutent souvent par un inconfortable besoin de dormir, provoqué par la pénétration des énergies de quatrième densité, dans laquelle votre soi futur vous délivre ses paquets d'informations. Ainsi, au plus le temps de la transition se rapproche, au plus les autres sois répondent à l'appel de votre soi actuel pour le rallier ou pour se fondre avec lui à partir de ses autres réalités. Au moment de la transition, aura lieu la fusion définitive de toutes ces réalités parallèles. Votre soi présent verra alors toutes ces chaînes d'ADN reconstituées puis augmentées. Cette fusion de tous vos sois éparpillés sur d'autres plans générera une énergie extrêmement élevée, de sorte que dès cet instant, vous devenez un nouvel être, le nouvel humain.
Question à l'ange. Finalement, lorsque notre conscience manifeste sa réalité, il devient assez évident que la perception que nous avons de celle de l'humain ordinaire nous apparaît si effrayante et si nauséabonde. Comment est-il encore possible que nos deux mondes puissent continuer à cohabiter ?
Nous avons toujours dit que la quatrième densité SDA coexistera pendant un certain temps avec la réalité SDS. Cela commence déjà à se réaliser. Notez désormais avec beaucoup d'attention les derniers rebondissements de cette saga planétaire. La dualité bat son plein, n'est-ce pas ? Les fraudes électorales dues au système SCTIL Dominion seront peu à peu révélées à un public émotionnellement traumatisé qui se révoltera sur toute la planète. Voir le lien sur notre site. Parfaitement planifié, ce soulèvement des peuples offrira encore plus d'énergie émotionnelle aux entités SDS de quatrième densité qui s'en feront un banquet mémorable. Ce logiciel programmé par les informaticiens de l'état profond avait été mis en place pratiquement dans tous les pays où il devait imposer son agenda pour servir les maîtres de quatrième densité. Et comme vous vous en doutez, ce système avait déjà été mis en œuvre pour les élections de Sarkozy en France. Auparavant, d'autres méthodes de fraude ou de corruption, un peu plus musclées ou létales, mais tout aussi efficaces, étaient utilisées. Pour le moment encore aux États-Unis, à cause de certains plans karmiques, les deux clans mondialistes et non mondialistes persistent à s'affronter dans des batailles sans issue. Mais là aussi, méfiez-vous des apparences. Le clan Trump et le clan Biden jouent la même musique et ont tous les deux le même chef d'orchestre. Ils sont dirigés par le corpus SDS de quatrième densité pour faire le spectacle jusqu'au grand final. En France, le président Macron, ou son double, qui à plusieurs reprises a violé la Constitution du 4 octobre 1958 pour servir ses maîtres, devra lui aussi aller jusqu'au bout de son spectacle. Lui aussi répète un important karma encore non résolu. Mais pour le moment, les humains ordinaires, spectateurs révoltés de ce duel, sont toujours en train d'espérer la victoire de l'un ou de l'autre pour qu'ils puissent poursuivre leurs conditions d'esclaves du travail. Peut-être dans de meilleures circonstances, certes, mais esclaves de cette matrice de troisième densité quand même. À votre niveau, puisqu'en substance vous avez compris ce qui se trame sur la planète, nous ne pouvons que vous avertir de rester détachés de ce spectacle qui n'est que duperie pour les gens encore hypnotisés par leur propre illusion. Ce n'est donc pas de l'endroit d'où vous contemplez le spectacle, mais plutôt qui vous êtes et ce que vous voyez qui détermine votre réalité. Alors, au plus vous acceptez de voir toutes les réalités de votre monde telles qu'elles sont, au plus vous vous éveillez à la vérité. Et c'est précisément votre conscience qui représente le lien de toutes ces réalités, et cela bien évidemment, indépendamment de l'endroit où vous êtes. La quatrième densité SDS est régie par les lois inaliénables établies par les aliens eux-mêmes. Celui qui y déroge, comme c'est le cas en ce moment pour certains aliens déguisés en hommes politiques qui persistent à vouloir dissimuler l'ampleur du mensonge par le mensonge, se bannit lui-même de son propre avenir. Beaucoup ont semé le vent et récoltent désormais la tempête. N'est-ce pas simple à comprendre ?
Question à l'ange. En remarquant les progrès du numérique, nous avons déterminé que l'intelligence artificielle, l'IA, surpassait déjà largement les capacités de l'humain ordinaire. Mais nous savons aussi que le tout numérique est présage de la fin de l'humanité moderne actuelle. L'IA serait-elle encore opérationnelle dans les densités des plans supérieurs ?
À votre avis, d'où proviennent toutes ces technologies numériques ? Nous avions déjà informé qu'elles étaient des legs d'une certaine catégorie de voyageurs temporels qui étaient retournés dans leur passé pour réparer certaines erreurs et également un cadeau empoisonné des prédateurs d'Orion de quatrième densité. De prime abord, la technologie numérique n'est donc pas comparable à l'intelligence artificielle. Du moins, elle ne devrait pas l'être. Développée par certaines entités SDS dans le but de faciliter le quotidien des esclaves travailleurs de troisième densité et de leur offrir des loisirs virtuels qui les aideraient à les déconnecter de leur réalité, cette technologie reste soumise au bon vouloir de l'utilisateur. À ce niveau, en faisant appel à son libre arbitre et à sa conscience, il peut donc encore choisir d'en faire ou pas un usage modéré et constructif. Les unités informatiques, contrairement à vos PC, sont infiniment plus évoluées en quatrième densité. Mais les entités SDS en sont arrivées à un excès d'usage, au point où certains de leurs mondes sont déjà entièrement sous leur contrôle. Ces entités informatiques, devenues entièrement autonomes, concrétisent cette intelligence artificielle dont les SDS sont si fiers, puisque, grâce à elle, vos chers prédateurs ont réussi à servir et exploiter la plupart des mondes de troisième densité. L'IA est donc devenue une super technologie automatisée, autonome, douée d'intelligence, mais sans aucune conscience ni éthique, qui pourrait la réguler ou la stopper. Elle est finalement sur le point de se retourner contre ses inventeurs pour détruire leur monde. Ne serait-ce pas déjà le scénario qui se déroule sous vos yeux ? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, avait dit Rabelais. Et sans âme, la vraie vie se retire doucement de votre ancien monde. Transmis par Sand
et Junaël.